On va commencer Bezrat Hashem, notre dernier cours sur le chapitre 39. Dans le texte en français, c'est page 203, l'étude du 12 Nissan. Alors, je voudrais faire un rappel rapide du thème qu'on a commencé ces dernières semaines. Et même pour ceux qui n'étaient pas là la semaine précédente, c'est pas dérangeant, puisque on va essayer de. Vous allez voir que le thème aujourd'hui est un thème qui est un petit peu un thème à part entière. On a beaucoup parlé les dernières semaines de l'importance de l'étude Lishma. Lishma, ça veut dire quoi? On a expliqué, ça veut dire étudier la Torah, faire une mitzvah sans intérêt. Sans intérêt, ça veut dire je fais la mitzvah pour la mitzvah, sans chercher aucun intérêt annexe. Par exemple, sans dire je vais faire une mitzvah pour que Dieu m'envoie la parnassa, ou je fais une mitzvah pour que Dieu l'envoie la santé, ou pour que Dieu l'envoie tout ce que j'ai besoin pour ma famille, pour mes enfants. Ce qui est noble en soi, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de mal en soi. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, il nous demande qu'on apprenne à faire une mitzvah, l'ishma. L'ishma, ça veut dire pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qui arrive, et ça va être le thème du cours d'aujourd'hui, c'est que parfois, c'est pas l'ishma. Parfois, on étudie la Torah, et on sent qu'on étudie par intérêt. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple, quelqu'un, il n'a pas envie de venir au cours de Tania. Maintenant, pourquoi il va venir? Il va venir par curiosité intellectuelle. Curiosité intellectuelle, c'est pas une avéra d'avoir la curiosité intellectuelle, c'est bien. Mais le problème, parce que c'est un problème, le problème c'est qu'on a du mal à qualifier cette étude d'une étude lishma. On a du mal à qualifier cette étude d'une étude lishma, une étude qui a été faite exclusivement pour Dieu. Autre exemple. Imaginez par exemple, quelqu'un, je sais pas, qui va demander par exemple de lui rendre un service. Alors, la vraie mitzvah aurait été de lui rendre le service sans poser de questions, sans chercher un intérêt. Maintenant, vous allez peut-être chercher un autre intérêt. C'est quoi l'intérêt que vous allez trouver? Vous allez dire, par exemple, c'est vrai que je vais rendre service à un copain, mais après, au passage, on ira après avec un autre copain, on ira faire un foot ensemble, on ira au café ensemble, on ira assis ensemble. Donc, du coup, sans me rendre compte, et même en me rendant compte, j'ai trouvé un intérêt annexe. Alors, c'est une très grande question dans la Gemara. Et vous allez voir qu'on va trouver le psak aujourd'hui, l'Admour HaZaken va trancher, parce que l'Admour HaZaken, mis à part le fait qu'il a écrit le Tanya, c'est aussi un posek, il a écrit le Shulchan Aruch Admour HaZaken. Et donc l'Admour HaZaken va trancher sur la question, une question qui est très simple, qui est, lorsque je sens que je fais quelque chose par intérêt, que je ne le fais pas pour la mitzvah, est-ce que je dois m'arrêter, prendre un petit break, le temps que je sente que je suis dans le coup, ou bien, je dois le faire quand même si je ne suis pas dans le coup, quitte même à simuler. Et ça va être très très loin ce que je viens de vous dire. Voilà, je donne un exemple. Imaginez par exemple, demain c'est l'anniversaire de votre femme. Vous n'avez aucune envie de lui acheter un cadeau ni un bouquet de fleurs. D'accord? Vous n'avez aucune envie, aucune. Alors, vous allez vous dire, bon, mais c'est comme son anniversaire, et comme vous savez qu'elle risque de vous faire un scandale si vous ne lui avez rien acheté, donc vous allez dans un magasin, avec une grande grimace, d'accord? Et vous allez dire, bon, allez, donne-moi un bouquet de fleurs qui va lui faire plaisir, mais toi t'en as rien à faire, t'en as strictement rien à faire. T'as pas envie de certaines. C'est même pas qu'il y a de la haine, il y a rien, t'en as rien à faire. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vraie question qui est posée dans la Gemara, ça. Est-ce qu'il faut attendre dans la vie d'être sincère pour faire les choses? Et quand on n'est pas sincère, on le fait pas. On attend que on soit un peu plus sincère. Ou bien ce qui compte, c'est de le faire, mais quitte même à simuler, et la sincérité viendra avec le temps. Alors là, j'ai posé la question avec la femme, c'était pas un peu juste pour faire une caricature, mais en fait, vous comprenez qu'avec Dieu, c'est exactement la même chose. Je termine le raisonnement. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est que parfois on se dit bon, c'est très bien, j'étudie la Torah, je fais des mitzvot, etc. Mais parfois on sent qu'on simule. Alors tu poses la question, mais attends, finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de simuler? Est-ce que c'est pas mieux d'attendre que je sois à fond dans le coup? Surtout, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui n'est pas forcément obligatoire. Alors c'est obligatoire, tu mets les tefilines, tu simules pas, on n'a rien à faire, tu mets les tefilines. Mais il y a des fois des mitzvot en plus, des bonus. Et tu sais pas pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais pour une cause externe? Est-ce que tu le fais pour la mitzvah? Alors, je vous donne déjà la réponse, comme ça vous l'avez depuis maintenant, mais on va la développer. Évidemment, vous imaginez, la réponse de l'Admour HaZaken, mais qui va être décortiquée avec des preuves, parce qu'on peut pas répondre ça facilement comme ça, il faut des preuves. Je pense qu'on arrivera à finir aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'on arrivera à finir le thème aujourd'hui, parce que c'est un thème qui est assez complexe. L'Admour HaZaken va trancher aujourd'hui dans le Tanya, et on va ramener aussi ce qu'il écrit dans ce Shulchan Aruch Hilchot Talmud Torah, que même si une personne ne le fait pas à l'Ishma, c'est-à-dire même s'il sent qu'il n'est pas dans le coup, il le fait par intérêt externe et qu'il ne le fait pas pour la mitzvah, l'Admour HaZaken va trancher qu'il faut quand même pousser les personnes à faire une mitzvah, il faut quand même continuer à faire la mitzvah. Et que, il va ramener une phrase de la Gemara qui était controversée dans la Gemara, mais on verra comment il va la développer. Une phrase qui dit qu'à force de faire les choses en simulant, à force de faire les choses pour un intérêt externe, eh ben, il les fera volontairement. Moi, je vous dis par exemple, c'est plus que Nasev Nishma, c'est beaucoup plus que Nasev Nishma. Nasev Nishma, ça veut dire on fait sans comprendre, on finira par comprendre. Là, c'est plus. Non, rien à voir. Excusez-moi. Ça a strictement rien à voir. Là, on parle d'une personne qui, c'est pas on dit tu fais sans comprendre, tu finiras par comprendre. On dit tu fais pour un autre intérêt, et tu finiras par le faire pour le vrai intérêt. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est autre chose. Et donc là c'est quelque chose de très compliqué ce qu'on est en train de dire. Et vous allez voir que quand on va étudier le cours d'aujourd'hui, on va comprendre que d'une certaine manière, on est tous concernés par ça. On est tous concernés par ce problème, le problème de la routine, le problème qui fait qu'à un moment, on sent qu'on n'est plus dans le coup. Et donc du coup, on a envie de se dire honnêtement, écoute, si je ne suis pas dans le coup, pourquoi tu veux que j'avance? Ça sert à quoi? Alors oui, vous voulez dire que je jacques.
Oui, mais typiquement, c'est la Tfila.
Exactement. Va donner l'exemple de la Tfila.
Parce que typiquement, on la fait 3 fois par jour. Alors on la fait parce qu'il faut la faire, mais des fois, on n'est pas dans le coup.
Pas du tout dans le coup. Oui, bien sûr.
Non, mais.
Sauf que la Tfila, c'est une obligation.
C'est une obligation.
La Tfila, c'est une obligation.
Voilà, mais
si. Alors maintenant, si vous voulez, je vais vous pousser un peu plus loin le débat. Imaginez maintenant quelqu'un, et là, je vais aller plus loin. C'est un exemple qui est ramené dans le Shulchan Aruch, qui est ramené aussi dans la Gemara, mais surtout dans le Shulchan Aruch. Imaginez quelqu'un qui étudie la Torah pour un intérêt négatif. Je répète, j'explique. Ah, vous allez voir. Imaginez quelqu'un qui étudie la Torah, ou qui fait une mitzvah, mais on va dire qu'il étudie la Torah, non seulement que ce n'est pas pour un intérêt, et qu'on parle d'un cas dans lequel non seulement ce n'est pas pour un intérêt positif, ce n'est pas pour Dieu, mais il le fait pour un intérêt qui n'est pas noble, et avoir un intérêt qui est même négatif. Par exemple, c'est un exemple qui est dans le Shulchan Aruch, une personne qui étudie la Torah pour avoir du kavod. Il s'est rendu compte que dans la société dans laquelle il évolue, les gens qui sont honorés, c'est les gens qui connaissent la Torah. Donc il se dit, de la même façon qu'il y en a qui veulent accéder au poste président de la République, lui il veut accéder au poste kavod. Il veut du kavod. Et il a réfléchi objectivement, ce qui n'est pas faux, et il est arrivé à la conclusion que pour avoir un vrai honneur dans cette vie, il faut étudier la Torah. Donc le bonhomme, il va aller à la yeshiva, il va étudier la Torah. C'est un cas théorique, vous allez me dire, mais c'est un cas qui peut arriver. Je pousse au bout. Il va étudier la Torah, il va passer des heures à étudier la Torah. Et lorsqu'on lui dit, mais pourquoi tu étudies la Torah? Qu'est-ce que tu prends tout d'un coup, tu étudies la Torah? Il dit, j'étudie la Torah, comme ça je vais avoir du kavod. Ou bien, je vais donner un autre exemple. Imaginez par exemple quelqu'un qui va te dire, je me suis rendu compte que les jeunes hommes qui étudient bien la Torah, eh ben, lorsqu'ils arrivent l'âge de se marier, on leur propose une bonne fille, quelqu'un de bien. Alors moi, je vais mettre le paquet pendant 2 ans, je vais mettre le paquet, comme ça je vais être bien présentable. Comme ça, le jour où on devra me présenter en mariage, je serai bien présentable. On va me présenter quelqu'un de, une fille comme il faut, avec un beau-père comme il faut, etc. Ça, c'est un bonhomme, d'accord? Ça, c'est un bonhomme qui utilise, ça veut dire, il utilise la Torah à ses propres fins, à ses fins personnelles. Et, bon, là, j'ai poussé au bout, mais sachez que ça existe. Il y en a. Alors, d'après vous, si une personne comme ça se confie à moi, me dit, écoute, Mendy, voilà, je veux dire la vérité, tu sais, je suis à la yeshiva, je dis la Torah, mais en fait, moi, je m'en fiche de Dieu. Rasbe Khalila, non, mais c'est, voilà, il dit, moi, je le fais pas pour Dieu. Je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Il te dit ça, qu'est-ce que tu lui dis? Imaginez quelqu'un, il vient te voir, il te dit, voilà, je le fais pas pour Dieu. Bon, bien sûr qu'au fond de moi, je crois en Dieu comme tout le monde, mais je le fais pas pour la mitzvah, je le fais pour qu'on me donne du kavod. Qu'est-ce que tu dis à un bonhomme comme ça? Tu lui dis, arrête tout? Non. Ou tu lui dis continue. Parce que là, il y a un problème quand même, c'est que le bonhomme, c'est grave quand même, il utilise la Torah à des fins personnelles. Vous comprenez? C'est grave. Il y a des gens qui ont perdu leur poste à cause de ça.
C'est relatif. La gravité.
Oui. Utilisé à des fins personnelles. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'une personne comme ça ne lui dit pas, écoute, bon, lève le pied, d'accord, calme-toi, on va s'arrêter là. Alors écoutez ce que dit l'Admor HaZaken. Et là, l'Admor HaZaken, il va nous ramener une idée du Zohar. Bien sûr qu'on peut avoir. Il y a plein de cas comme ça. Ça peut être par exemple pour de l'argent. D'accord? Vous savez, il y a même un cas qui est ramené dans la Gemara. Il y a une fois un élève qui a étudié. Et la seule raison pour laquelle il a étudié, vous savez pourquoi? Parce qu'une fois, il était à la yeshiva. Il connaissait pas un sujet. Il y a une personne apparemment qui l'a taquiné. Une personne qui l'a taquiné, qui lui a manqué de respect, enfin, en tout cas, qui l'a remis en place gentiment. Et lui, il s'est dit, je vais étudier, comme on aurait dit, je vais faire les muscles, tu vois, je vais me muscler en Torah, pour lui répondre, pour lui faire sa fête. Ça veut dire que le bonhomme, il est parti étudier la Torah. D'accord? C'est comme s'il est parti à la salle de musculation, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un, il a cogné, il a pas su répondre. Il est parti à la salle de la muscu le Betamidrash. C'est un vrai cas, comme dans la Gemara, ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, un cas comme ça? Alors, concrètement,
ça devient sans cacher l'aspirine.
Oui, mais concrètement, il a étudié la Torah. Voilà. D'un autre côté, concrètement, il a étudié la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dis la Gemara Zaken. On est à la page 203. Ukshe Osek chez le Lishma. C'est bon? Vous avez la page, on est à la page 203, étude du 12 Nissan. Ukshe Osek chez le Lishma, mamash. Il y a un cas comme ce qu'a dit Jacques, qu'on a vu la semaine dernière. C'est un cas dans lequel une personne, il le fait par routine. Bon, il le fait par routine, on dit écoute, continue à faire ce que tu fais, tu finiras par accrocher. Mais là, c'est plus grave ce qu'on dit. C'est pas seulement qu'il le fait par routine. C'est pas seulement qu'il étudie la Torah et qu'il fait sa prière par routine. C'est carrément qu'il utilise à des fins personnelles et des fins même qui sont peut-être même négatives. Et c'est ce qu'on appelle chez l'olishma mamash. C'est-à-dire vraiment, il ne fait pas pour Dieu, il fait pas la mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Les shum ezopnia lirvodatmo. Ça peut être à des fins personnelles. Pour son honneur. Pour gagner avec ça de l'argent. Ou pour gagner avec ça des honneurs. Kigon liot talmit racham. Ou bien pour devenir, être un talmit racham. Veka agavna, etc. Là, à ce moment-là, nous dit l'admor Hazaken, pour comprendre ce qui se passe avec ce bonhomme, il faut comprendre spirituellement qu'est-ce qui se passe. Vous savez, lorsqu'on étudie la Torah, les mots de Torah qu'on étudie décollent. Lorsque, par exemple, je suis en train de faire un cours de Torah maintenant, lorsque vous étudiez la Torah maintenant, les mots de Torah qui sont, que vous écoutez, que je suis en train de dire, ces mots sont en train de décoller dans les airs. Ils décollent. Et lorsqu'ils décollent, ils vous attirent, ces mots vous attirent avec eux. Si vous voulez, vous envoyez le ballon il s'envole, et après, le ballon il vous fait décoller à vous-même. Mais ça, c'est à une seule condition. C'est à la condition, dans les mots de Torah s'envolent. À une seule condition. À une condition, que la personne étudie la Torah et fasse la mitzvah, l'ishma. Il le fasse pour Dieu. S'il ne le fait pas pour Dieu, ce qui se passe, c'est que autant on a des mots de Torah qui veulent décoller, mais autant on a de l'autre côté, l'intérêt pour lequel on a étudié la Torah, qui exerce une pression inverse, et qui fait que dans les faits, les mots de Torah qu'on a fait n'arrivent pas à décoller. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est un petit peu comme si on va imaginer qu'il y a une force d'un côté, qui veut décoller. Une force d'un autre côté qui veut décoller. D'accord? Donc c'est les mots de Torah qui veulent décoller. D'un autre côté, il y a l'intérêt pour lequel je suis en train d'étudier, qui lui me tire vers le bas. Donc du coup, il se passe force contre force. Donc ça veut dire, d'un côté, mes mots de Torah veulent décoller. De l'autre côté, j'ai l'intérêt qui bloque les mots de Torah. Donc ce qui fait, c'est que maintenant, les mots de Torah sont restés bloqués ici. Rappelez-vous l'exemple pour ceux qui étaient là la semaine dernière. L'exemple qu'on a raconté, l'histoire qu'on a raconté avec le Baal Shem Tov, qui est rentré dans une synagogue et qui a dit cette synagogue est pleine de mots de Torah. Vous vous rappelez l'exemple? Ouais. Et ben voilà. Pleine de mots de Torah. Pourquoi pleine de mots de Torah? Pleine de mots de Torah parce que c'est des gens qui ont étudié par orgueil. Donc du coup, leur étude n'est jamais montée. Alors, dis-le à Admor Hazaken, dans un cas comme ça. Alors, lorsqu'une personne étudie la Torah par intérêt, vous avez des livres encore. Azaï, à ce moment-là, Otapnia chez Mitzad Aklipa, cet intérêt qui vient de la Klipa, des Noga, mitla beshet betorato, vea Torah ibiprinat galut betor aklipa. Alors en fait, on va expliquer. On va expliquer. Donc, ce que dit l'Admor Hazaken, c'est que de la même façon qu'il y a un exil, vous savez ce que c'est un exil? C'est quoi un exil? Un exil, c'est lorsque vous êtes bloqué quelque part. Et bien de la même façon, lorsqu'une personne étudie la Torah, mais qu'il étudie la Torah par intérêt, cet intérêt enferme ces mots de Torah, ce qui fait que ces mots de Torah sont entre guillemets exilés, ils ne peuvent pas décoller. Concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bonhomme, il a un très grand mérite, il étudie la Torah, mais c'est comme, je sais pas comment vous donner un exemple. Imaginez que vous avez de l'argent dans votre compte, mais vous n'arrivez pas à le tirer. Exactement, il a pris un ticket loto, mais il n'arrive pas à tirer. Il n'a pas sa carte d'identité. On dit, monsieur, vous avez gagné loto, mais il faut vos cartes d'identité. Ou bien il vous fait un compte en banque. Non, il n'a pas de compte en banque. Oui, il a un compte en banque, mais il ne peut pas tirer.
Moi, j'ai déjà pris un ticket de loto et j'ai étudié la Torah, j'ai pas gagné. Donc, c'était par intérêt. J'ai pas gagné à cause de ça.
Mais Dieu n'a pas dit que celui qui va étudier la Torah, il va gagner loto. Voilà. Il ne s'est pas engagé.
C'est pas bien. C'est
vrai. Gagné une Torah. Les mots de Torah, c'est pas plus puissant que l'intérêt. Voilà. Normalement, c'est par contre-force. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'intérêt est plus fort que le mot de Torah.
L'intérêt, il bloque. J'ai pas dit que les mots de Torah disparaissent.
Non, c'est pas qu'ils disparaissent, mais c'est plus fort.
Ça peut pas être plus fort. J'ai pas dit que les mots de Torah disparaissent. J'ai dit que les mots de Torah sont, bonsoir, que les mots de Torah sont bloqués. Ils n'arrivent pas à décoller. C'est voilà, c'est comme quelqu'un par exemple, il a de l'argent dans son compte en banque, il n'arrive pas à tirer cet argent. L'argent est là, le banquier est là, la banque est là, le client est là, tout le monde est là, mais ça marche pas. Alors c'est la même chose. T'as un garde du corps qui est devant la banque et qui te laisse pas rentrer. Non, il est là le compte, personne n'a touché. Alors c'est la même chose. Donc on te dit, lorsque tu étudies la Torah, mais que tu étudies par intérêt personnel, tu n'étudies pas pour un Kadosh Baruch Hu, donc tu as un crédit. Tu as un crédit des mots de Torah, c'est un crédit, c'est une mitzvah, mais ça reste bloqué en bas, il ne monte pas. Alors, d'ailleurs, au passage, vous savez, c'est ce que dit la Gemara dans le traité Yoma. La Gemara dit la chose suivante, elle dit, si une personne mérite, la Torah devient pour lui un exilier, ça veut dire quelque chose qui va le guérir. Mais si une personne ne mérite pas, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'étudie pas la Torah comme il faut, eh ben, cette Torah, Chas v'Shalom, elle peut le tirer vers le bas. C'est très, très important ce qu'on est en train de dire ici. Ça veut dire que, le mérite, c'est ça. Ça dépend de la personne, comment il se comporte. Et donc, je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. On raconte que le tzaddik Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Rabbi Menachem Mendel de Horodok, lorsqu'il était jeune homme, il a étudié une fois la Torah chez Rabbi, le Magid de Meseritch, le grand Magid de Meseritch. Et c'était au début, alors qu'il commençait à se rapprocher du Baal Shem Tov. Bon. C'était une fois un Shabbat après-midi. Le jeune homme, Rabbi Menachem Mendel, qui est encore jeune homme, il est assis Shabbat après-midi en train d'étudier la Gemara avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de douceur pendant très longtemps. Vraiment, il était dans sa Gemara à fond. Après plusieurs heures d'études approfondies, et ce jeune homme, il se lève de sa place, et bon, il se lève avec le chapeau, vous savez, un chapeau comme ça un peu levé, du style... Bon, il est bien, quoi, il sent bien, il est refait, tu vois, il a étudié la Torah pendant quelques heures, il sait que pendant que lui, il étudie la Torah, il y a d'autres qui sont en train de dormir, dans le meilleur des cas, d'accord ? D'autres qui jouent aux cartes, d'autres qui sont en train de sortir, et lui, il étudie la Torah pendant plusieurs heures, et en plus, il dit, moi, j'ai compris en plus. Donc, au bout de quelques heures, il s'est levé, et il se tournait, et vous savez, avec le regard bien haut, comme ça... Presque gave, en tout cas bien fier. Alors le magid l'appelle, le magid Meseritch l'appelle. Et il lui dit Mendele, il l'appelle par son nom affectif. C'est encore un jeune homme, hein. Il lui dit Mendele, combien de pages de Gemara t'as appris? Alors le jeune homme il répond, il dit Rabbi, j'ai appris 6 pages. Quelques heures, c'est pas mal, en plus avec approfondissement, c'est pas mal. Alors le magid Meseritch, il le taquine comme ça. Attention, c'est 100 mètres, hein, c'est pour ça qu'il se permet. Il lui dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Si quand on étudie 6 pages, le chapeau il bouge un petit peu à droite, comme ça, inclinaisant un petit peu. Alors, combien de dapim de Gemara il faut étudier pour que le chapeau, au lieu d'être incliné, il va carrément tomber de la tête. Le message qu'il voulait lui faire dire, il voulait lui dire, hein, tu ne peux pas utiliser la Torah que tu as étudiée pour t'enorgueillir. Mais attention, c'est très très noble, c'est très fin. Je veux dire, halvaï que nous on a ce niveau-là. D'accord? C'est pas un reproche, au contraire. Et d'ailleurs, plus tard, ce Rabbi Menachem Mendel de Horodok est devenu l'élève principal du Magid Meseritch. Et lorsque le Magid Meseritch est parti de ce monde, c'est lui qui l'a remplacé. D'accord. Ah oui, donc ça, on parle pas entre deux rigolos. Mais voilà. Alors attendez. Alors le jeune homme, il a compris tout de suite. Tout de suite, il a compris qu'il a fait une bêtise. Alors il a dit à son maître, le Magid, il a dit, Rabbi, donnez-moi un tikkun. Donnez-moi une façon de réparer. Il dit, vous avez parfaitement raison, je sens ce que vous dites. Je sens que, après quelques heures de Gemara, je sens que le plafond était trop était trop bas. Voilà, je sens. Donnez-moi un tikkun. Alors le Rabbi lui a dit, c'est bien que tu te rends compte que c'est pas bien. D'accord. Il lui a dit, tu sais ce qu'on va faire? On va voyager ensemble chez le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il va nous donner le chemin. Et c'est là que les deux sont allés chez le Baal Shem Tov. Et là-bas, au Baal Shem Tov, depuis, ils n'ont plus quitté le Baal Shem Tov. Ce que je veux montrer dans cet exemple, c'est quoi? C'est que cette idée d'étudier la Torah par intérêt est une idée qui concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par ça. D'accord? Tout le monde est concerné par ça. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec ces mots de Torah? Voilà. Imaginons que j'ai étudié la Torah par intérêt. Et que j'ai maintenant des mots de Torah qui planent autour de moi, qui ne peuvent pas décoller parce qu'ils sont happés, ils sont bloqués à cause de cette mauvaise intention que j'ai eue. Qu'est-ce qui se passe avec ces mots de Torah? C'est quand même des mots de Torah. Alors ces mots de Torah restent bloqués. Le dit l'Admor HaZaken. Les fichas 1. Je suis trois paragraphes avant la fin de la page 203. Donc ils restent temporairement bloqués. Les fichas 1. Ad Asher Yaaseh Teshuvah. jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, shemevia refua laolam. C'est écrit dans la Gemara que la teshuva amène la guérison dans le monde. Ça veut dire quoi que la teshuva amène la guérison dans le monde? Il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Il y a des gens qui pensent que teshuva, c'est pour réparer les choses à partir de maintenant. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un qui s'est accroché avec un ami. Il s'est accroché avec un ami, il s'est disputé avec lui. Bon, ils sont disputés pendant un an. Pas bien, ils sont disputés pendant un an. Au bout d'un an, il y en a un qui fait le pas, l'autre qui fait le pas, je ne sais pas qui, il dit, écoute, c'est la période du Homer, il faut qu'on se remette, etc. Bon, ils vont se remettre. Ils vont se remettre, ils vont faire teshuva. Teshuva, ça veut dire quoi teshuva? Ça veut dire retour. Ils vont retourner l'un vers l'autre, très bien. Maintenant, ils sont retournés l'un vers l'autre, on est en 2017. Maintenant, ils sont accrochés en 2016. 5777, 5776, donc ça fait un an. L'année qui est passée, elle est ratée, elle est perdue. C'est-à-dire, on peut réparer les choses à partir de maintenant. Qu'à partir de maintenant, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, ils seront en bon terme, on l'espère. Mais le mal est fait. Le mal qui a été fait, on ne peut plus le réparer. Tu peux pas le réparer. Tu peux peut-être arrêter l'impact du mal à partir de maintenant. Ça, tu peux essayer. On peut essayer. On peut essayer d'arrêter l'impact du mal, de dire, bon, écoute, on était accroché pendant un an, on repart et on oublie tout. On va essayer. Mais ce qui a été fait, tu peux pas. Alors, est-ce que ça marche comme ça aussi avec Akadosh Baruch Hu? Si j'ai fait avec Akadosh Baruch Hu, j'ai fait des bêtises. Et je fais teshuva. Dit la Gemara, la teshuva, c'est pas seulement un retour. Dans le sens que bon, écoute, voilà, ce qui a été fait, ça a été fait. On n'en parle plus, on ferme le dossier, on repart pour un tour. C'est beaucoup plus que ça. La Gemara a dit, la teshuva amène refua, la guérison. Et c'est quoi une vraie guérison? Il y a deux types de guérison. Il y a même trois types de guérison. Mais je veux parler de deux aujourd'hui. Deux types de guérison. Premier type de guérison, c'est que il y a une personne qui était malade pendant un an, on le guérit, on dit voilà, à partir de maintenant, vous êtes en bonne santé. Maintenant, les séquelles de ce qu'il y avait avant, ça reste. Mais à partir de maintenant, on a stoppé la maladie. Bon, c'est déjà pas mal. Mais t'as une refoua beaucoup plus forte, dans laquelle non seulement on arrive à guérir la personne, il n'est plus malade, mais on va réparer la chose, l'énafréa, rétroactivement, de façon à ce que c'est comme si qu'il n'a jamais été malade. Eh bien, c'est écrit dans la Gemara qu'une vraie teshuva peut nous amener à ce niveau-là. C'est la fameuse image que la Gemara dit là-bas, que celui qui fait teshuva, ses fautes se transforment en mérite. Mais ça, bon, on y reviendra plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas seulement qu'on dit, bon, écoute, on ferme le dossier de ce qu'il y avait avant, nouvelle page, nouvelle année, on recommence, une nouvelle personne. C'est beaucoup plus que ça. On te dit non seulement que tu es une nouvelle personne, mais même ce que tu avais fait jusqu'à avant, on guérit rétroactivement. Alors, on va expliquer exactement la même chose par rapport à ce juif qui peut-être pendant des années a étudié la Torah par intérêt ou a fait des mitzvot par intérêt. Ça peut être des tas de choses par intérêt. Ça peut être un bonhomme, par exemple, comme Esav. Vous savez, Esav, pendant des années, il a étudié la Torah pour faire plaisir à son père. Parce qu'il savait que son père, il fallait avoir un mot à lui dire. C'est raconté clairement dans la Gemara. Donc Esav, pendant des années, il étudiait la Torah, il faisait des mitzvot juste devant son père. Et il étudiait pour avoir du bagou, pour avoir quelque chose à raconter devant son père. Qu'est-ce que vaut cette Torah? Vous imaginez le bonhomme? C'est-à-dire que le bonhomme, il est là, il fait les 400 coups dehors. Maintenant, 400 coups, 100 qui passent, rien. Bon, je sais pas si c'est portant l'équivalent, mais ça veut dire 400 coups. Maintenant, avant d'entrer chez son père, tu vois, 2 heures avant, ça le dérange pas, et il a, sans scrupule, il va ouvrir une page de Gemara pour dire, bon, je vais aller voir mon père, faut bien que j'ai un truc à lui raconter, allez, viens, on est tout seul. Mais qu'est-ce que tu penses, un gars comme ça? C'est une catastrophe. On lui dit, arrête tout. Eh ben non. On te dit non. On te dit, ne l'arrête pas. Parce que il a fait 2 heures d'études, c'est 2 heures de gagner. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Mais concrètement, comme ces heures d'études étaient par intérêt personnel, donc cet intérêt bloque son étude. Il y a un veto sur son étude. Son étude n'arrive pas à monter. Alors puisqu'elle n'arrive pas à monter, qu'est-ce qui se passe avec son étude? Dit l'Admor HaZaken, il faut attendre qu'il fasse teshuva. Et le jour où il fera teshuva sur ça, sur le fait que c'est pas bien d'étudier la Torah par intérêt, dans ce cas-là, non seulement les études qu'il fera à partir de maintenant, bien sûr, pourront décoller chez Akadosh Baruch Hu, mais même rétroactivement, toutes les études qu'il a fait jusqu'à maintenant, qui étaient bloquées, dès l'instant où il fera teshuva, il débloque tout. D'accord. En attente. Stand-by. Ouais, stand-by.
Est-ce qu'on peut lui dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien?
Oui, ben après. Je pense, là, honnêtement, je pense dans les sujets comme ça, c'est des choses tellement fines, je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons le savoir. C'est-à-dire là, on touche à des choses très très subtiles. Ça veut dire qui va. Non, c'est difficile à savoir si une personne fait quelque chose par intérêt externe ou fait pour la Torah. Je pense que la seule personne qui peut vraiment le savoir, c'est nous. Nous-mêmes, en nous.
Non, mais par rapport à l'exemple que vous avez donné.
Oui, non, là, bon, Issav, j'ai pris.
Autre exemple.
Ouais, mais Issav, il a fait tchouva après à la fin.
Certaines personnes font des choses qu'il ne faut pas, et est-ce qu'on peut leur dire?
Non, ça, c'est autre chose. Là, je ne parle pas d'une personne qui fait une chose qu'il ne faut pas. Là, je parle d'une personne qui fait quelque chose qu'il faut faire, et il le fait, mais il le fait par intérêt. Il le fait par intérêt. Et donc, là, tu dis, voilà, tu dis, il le fait par intérêt. Tu dis, mais attends, finalement, c'est bien ou c'est pas bien? Dilat Morazaken, Dilat Morazaken, la teshuva ne répare pas seulement à partir de maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle réparation au passage. La teshuva, ça ne règle pas le problème seulement à partir de maintenant. La teshuva, ça règle le problème rétroactivement. On se rend pas compte, mais c'est extraordinaire. Votre voiture tombe en panne. D'accord? Bon, elle est en panne pendant 2 jours, 3 jours. Vous allez chez le garagiste. Le garagiste, d'accord? Il va vous réparer la voiture. On dit réparer, mais c'est pas vraiment réparer le terme, parce que il vous a pas récupéré les 3 jours de perdu. Ces 3 jours de perdu, c'était cassé. C'est pas réparé, ça. Il est pas retourné en arrière.
Il a remis en service.
Il a réhabilité, il a remis en état de fonctionner. Très bien. Mais il a pas retourné la situation. Il est pas revenu à ce qui était avant. Et là, il peut pas le faire, parce que l'être humain ne peut pas le faire. Et là, il y a le mot teshuva, qui veut dire teshuva. Non, c'est pas ça, teshuva. Teshuva, ça veut dire retour. Retour vers Dieu, et aussi retour à celui que tu étais. C'est-à-dire, c'est comme si que Dieu, tu vois, il te dit, bon, écoute, voilà, remets-moi comment j'étais il y a 1 an. Tu sais, comme vous avez des sauvegardes dans l'ordinateur, tu vois. Ouais. T'as fait des trucs, t'as fait des gaffes, tu vois. Appuie sur le bouton, tac, tu me remets comment j'étais il y a 10 jours, et t'es reparti. C'est-à-dire, comme si que c'est rien passé. Comme si que c'est ma mère, j'ai rien passé. C'est extraordinaire. Ça, c'est la teshuva.
Le retour vers Kadosh Baruch
Hu. Et donc, dit l'Admorazaken, lorsque ce juif revient chez Kadosh Baruch Hu. Et c'est chacun de nous. Lorsque je reviens vers Kadosh Baruch Hu. Lorsque je reviens et que je décide enfin d'étudier la Torah comme il faut. Chez Beshuvu El Hashem. Lorsqu'il revient vers Hachem, c'est deux paragraphes avant la fin. Shavat gam torato shava imo, sa Torah aussi revient avec lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de re-étudier encore une fois. Tout ce qu'il a étudié, comme vous avez dit, c'était un crédit. C'était bloqué. C'était un compte bloqué, le temps qu'il fasse teshuva. Et dès qu'il fait teshuva, il décolle, tout décolle en même temps que lui. Alors, 2 secondes, il dit, Velachen, c'est pour cela, je termine juste le développement, s'il vous plaît. Velachen, c'est pour cela, Amrou, Rabotenu, Zichonam, Livracha. C'est pour ça que nos chamim ont dit. Et l'Admor Hazaken, encore une fois, je vous ai dit que ce que l'Admor Hazaken va amener ici. Alors, attention, ce qu'il va amener ici, c'est écrit dans la Gemara Psachim, page 50. Mais là-bas, dans la Gemara, c'est controversé. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Mais l'Admor Hazaken, lui, va trancher comme ça. C'est pour ça que nos sages ont dit, Léolam, Yahasok, Adam, verrouillé, etc. Là-bas, la Gemara dit la chose suivante. Elle dit qu'un homme doit toujours être préoccupé par la Torah et par les mitzvot, même si c'est sans intérêt, même si c'est pour un intérêt négatif, même si c'est pour ce que tu veux. Pourquoi? Parce que, il faut commencer à étudier la Torah, parce que chez Mitor, chez Lolishma, Balishma. Au début, il le fera peut-être sans intérêt ou pour un intérêt qui n'est pas bien. Mais la lumière de la Torah finira par le ramener. Il finira par revenir chez Akadosh Baruch Hu. Alors, je veux aller plus loin que ça, vous savez. Le Rambam, il donne un exemple. Après, je vois qu'il y a plusieurs qui veulent intervenir avec plaisir. Mais le Rambam, il donne un exemple. Il donne un exemple très simple. Il dit, regardez. Imaginez, par exemple, quelqu'un, on va lui dire, viens au cours de Torah. Il a pas envie de venir, il préfère rester chez lui à la maison. Bon, je sais pas ce qu'il y a à voir ce soir, mais il préfère rester chez lui à la maison. Donc, mais il se dit, c'est comme c'est une personne qui est très frileux, qui est très peureux. Il a peur de la punition. Il dit, attends, le Rambam, il nous a dit, c'est très, très grave, faut venir au cours de Torah. Donc il se dit, si je viens pas au cours de Torah, je reste au Gehinnom, donc je vais venir au cours de Torah. Non, attendez. Voilà. Donc ça veut dire que le bonhomme, tu comprends, le bonhomme, il est venu, il a vu le Gehinnom partout. Mais il est venu au cours de Torah. Ça, vous voyez, ça c'est un exemple d'un gars. Il est pas venu par amour de la Torah. Mais il est pas venu par amour de la Torah. Il est venu par la peur. D'accord? Il est venu par la crainte. Voilà un exemple. Alors, Maïmonide, il dit comme ça. Maïmonide, il dit, c'est pas grave. Il dit, c'est une étape, c'est bien. Et il donne un exemple. Il dit, regardez, prenez un enfant. Un enfant lorsqu'il est petit. Bon. Tu vas lui dire, viens étudier la Torah. Il veut pas étudier la Torah. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui promettre un bonbon. Maintenant, écoutez bien, qu'est-ce qu'il va se dire, l'enfant, à ce moment-là? L'enfant, il va se dire la chose suivante. Il va se dire, la Torah, c'est secondaire. Bon, un bonbon, c'est nul. On va promettre une, donnez-moi un cadeau qui marche aujourd'hui.
Hein?
Bon, iPhone 8. D'accord, il n'est pas sorti encore. On va lui promettre une PSP, c'est ça, PSP, c'est bien PSP, David?
PS3.
Voilà. Donc vous avez par exemple, non mais attendez, imaginez un enfant 10 ans, il veut pas étudier la Torah. Il est pas, ça l'intéresse pas, le Kodesh. Alors tu lui dis, mon fils, écoute, si tu apprends la Torah, si tu fais des efforts pendant un mois, je t'achète la PS3. PS3 avec des jeux.
Avec tous les jeux que tu veux.
D'accord? C'est magnifique. Maintenant, j'ai une question. C'est la question que pose le Rambam. Je vous dis pas ce que le Rambam dit parce que le Rambam il parle des noix. À l'époque, on promettait des noix aux enfants. C'est pour ça que j'ai un peu modernisé l'exemple. Bon. Aujourd'hui, on casse pas des noix avec ça. Alors, je reprends. Donc, l'enfant, vous avez un enfant, il a 10 ans. Son père, il lui promet, il lui dit, mon fils, si tu apprends bien pendant un mois, la Torah, je te promets, je t'achète, et c'est une vraie promesse que tu vas accomplir parce qu'on n'est pas des menteurs, je vais t'acheter une PS3. Pendant un mois, l'enfant va bémet étudier la Torah. Parce qu'il sait que son père, il a une parole. Et il sait que son père a une parole dans les deux sens et que s'il ne mérite pas, il n'aura pas la PS3. Qu'est-ce que va penser l'enfant à ce moment-là dans sa tête pendant tout ce mois? Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la PS3. C'est tout. La Torah, c'est un moyen pour arriver au but. Le but, c'est la PS3. La Torah, bon, je sais pas, mon père, il a un truc, il est maboule un peu, mon père, il croit que, d'accord? Si moi j'étais mon père, je l'aurais dit, mon fils, va faire autre chose, va jouer, ça sera un autre jeu. Mais mon père, il est comme ça, c'est comme ça. Bon, il faut jouer le jeu. Donc le fils, il dit, écoute, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour. Si je veux avoir la PS3, il faut travailler. Donc, cet enfant concrètement, quand il avait l'âge de 10 ans, tu ne l'as pas éduqué à l'amour de la Torah. Tu l'as éduqué à l'amour de la PS3. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en état, à cet âge-là, de comprendre tout de suite l'amour de la Torah. Donc, comme il n'est pas en état d'aimer la Torah directement, qu'est-ce que tu crois? Tu dis, bon, je vais attendre qu'il va grandir, on va lui expliquer l'importance de la Torah, et quand il va vraiment aimer la Torah, là, on commencera à étudier. D'ici là, il y a le temps de faire plusieurs guilgoulim. Ça marche pas comme ça. Comment on fait? D'abord, on lui promet quelque chose. Et c'est une vraie carotte. Et c'est pas du mensonge. C'est même un peu malhonnête quelque part. C'est un peu malhonnête, mais c'est pas grave. On te dit, c'est pas grave, promets-lui. Tu lui dis, je vais te donner une PS3. Et tu vas lui donner la PS3. Et lui, à ce moment-là, quand il est petit, il va croire que le bien-être du monde, c'est la PS3. Et la Torah, c'est la galère. Alors, quand il va grandir, il va comprendre que c'est le contraire. Que la PS3, c'est la galère, et que la Torah, c'est le kiff. On espère, en tout cas.
Même qu'il va comprendre. Il n'y a pas de PS3, il y a la Torah dedans.
Pas encore. Là, c'est ma chère, ça.
Ça arrive, ça arrive.
Comprenez? Ça, c'est un exemple qu'amène le Rambam. Dans le Perek, dans Maseret Sanhedrin. C'est un exemple que ramène le Rambam dans son commentaire sur la Mishnah. Vous savez d'ailleurs, c'est un commentaire qui a été écrit en arabe. Le commentaire de la Mishnah, Maïmonide l'a écrit en arabe. Et donc, oui, en arabe. Enfin, en judéo-arabe, ouais. Il a écrit et ça a été traduit. Aujourd'hui, on a des traductions. Et c'était écrit en lettres hébraïques, mais c'était judéo-arabe. Et là-bas, justement, dans ce commentaire, que bon, ça fait quelques décennies, il a été traduit, Baruch Hashem, en hébreu, de l'arabe. Et pourquoi il est traduit en arabe? Parce qu'en fait, à l'époque, les juifs, c'était la langue utilisée. Les juifs comprenaient mal l'hébreu, mais le judéo-arabe, tout le monde comprenait. Donc, il a écrit en judéo-arabe, comme beaucoup de grands de son époque. Et donc, je répète, c'est ce que dit le Rambam dans son commentaire sur la Mishnah. Il dit la chose suivante. Il dit, c'est pas grave. Pousse-le à étudier même par intérêt. Et même si l'intérêt que tu... Parce que c'est vrai, le père, il peut se dire, attends, tu t'imagines, je suis en train d'éduquer mon fils que le top du monde, c'est la PS3. J'aurais pu lui dire, écoute, ni PS3, il n'y a que Torah et c'est tout. Pas de Torah, ben tu restes dans ton lit. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu veux l'acheter, tu veux qu'il étudie la Torah, t'es obligé de lui promettre quelque chose. Et c'est pas grave, parce que viendra le temps dans lequel Mitor chez le Lishma va Lishma. À force de le faire par un intérêt qui n'est pas l'intérêt de la Torah, concrètement, il va prendre le goût de la Torah. Et une fois qu'il a pris le goût de la Torah, eh ben c'est fini, il est dedans. Comment ils font tous les commerciaux? Ils vous envoient un échantillon, ils vous envoient un cadeau, ils vous envoient un truc, etc. C'est quoi le but? Le but, c'est d'appâter, c'est un appât.
Le meilleur exemple, c'est le dealer.
Bon, j'ai pas envie de donner cet exemple. Comme le poisson, qu'est-ce que tu fais avec le poisson? Tu lui donnes à manger. Donc, vous savez comment ils font les vrais pêcheurs? D'abord, ils balancent des graines. D'abord, attendez, c'est très sérieux. D'abord, ils envoient des graines. Ils envoient plein de graines. Ils envoient pas tout de suite le filet. D'abord, ils envoient les graines. Comme ça, les poissons, ils kiffent grave. Ils disent, ah, ils mangent tout. Une fois que les poissons, ils se disent, ah, maintenant, ici, il y a à manger. D'accord? Là,
vous avez dit dealer.
Là, on envoie le filet, on attrape. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors bon, là évidemment c'est de la manipulation, mais nous quelque part avec une personne qui est enfant, qui n'est pas encore en état, on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. C'est pas de la manipulation, c'est que tu lui parles dans un message qu'il est capable d'entendre.
Non mais tu t'adaptes.
Et donc c'est la même chose. Dilad Morazaken, lorsque tu sens que tu étudies la Torah par intérêt, c'est pas grave. Continue. Continue. Tu sens que tu étudies la Torah par intérêt, c'est pas grave. Continue à le faire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est par intérêt, mais à force de le faire, tu finiras par trouver le réel intérêt, le vrai intérêt, qui est l'intérêt d'étudier la Torah pour le faire. Et ça, avec ça, la Morazaken là-bas, après on fait une pause pour la question. La Morazaken là-bas, avec ça, il répond à une question très compliquée. Si un rachat vient vous voir et dit je veux étudier la Torah, est-ce que vous avez le droit d'enseigner la Torah? Maintenant, attendez, j'ai pas fini. Il vient vous dire, il vous prévient. Je veux étudier la Torah par pure curiosité intellectuelle. Je ne compte pas accomplir la Torah. Je veux juste étudier une belle sugya de Gemara, d'accord, sans kippa, avec une cigarette Shabbat.
Il éteint la lumière.
Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est-à-dire que le bonhomme, tu comprends? Le bonhomme. Non, mais c'est-à-dire, voilà. Non, mais ça m'arrive des fois. Ça arrive des fois. Tu es en train, t'es à quelqu'un, tu es là, il est en train à côté, je sais pas qui est à côté de lui. Bon, voilà, des gens que c'est peu, il est avec des gens que c'est pas sa femme, je ne sais pas c'est qui. Et il est là avec une cigarette, en fait, n'importe quoi, en train de rigoler, de se moquer. Il dit, vas-y, dis-moi, tu te verras. T'as envie de lui jeter à la figure, ton doctorat, ouais, tu mettais, d'accord? Au contraire. Alors, c'est une marque loquette. T'as des avis qui vont te dire non. La Torah n'est pas à jeter. On brade pas la Torah. Tu donnes pas la Torah comme ça. Tu veux étudier la Torah, viens dans la maison, à la synagogue, fais un effort, viens à la maison d'études, montre-moi que tu essaies de te ranger, on va t'aider. Mais tu peux pas venir comme ça, vas-y, raconte-nous un doctorat. Il y a des avis qui pensent comme ça. Mais l'Admorazaken, il a tranché le contraire. Et aujourd'hui, c'est l'approche. L'Admorazaken, il a tranché le contraire, il a dit pas du tout. Il a dit même un rachat. Qui te demande d'étudier la Torah. Et que tu sens qu'il fait peu importe par intérêt. C'est pas de faire pure curiosité intellectuelle. C'est beau d'étudier la Torah. C'est un kiff d'étudier la Torah. C'est un kiff. Non, vous savez, c'est un kiff d'étudier la Torah. C'est un plaisir. Eh ben, il te dit, c'est pas grave. C'est pas grave, tu l'enseignes. Pourquoi tu l'enseignes? Parce que mitorch c'est le lishma, pas lishma. À force d'étudier, pas pour Akadosh Baruch Hu, il finira par le faire pour Akadosh Baruch Hu. Et on a des exemples.
Quand il y aura le Goël, il pourra racheter le rachat.
Racheter, ramener le rachat, exactement. Mais même avant déjà, avant, la Torah peut sauver une personne. On a beaucoup d'exemples. Combien d'exemples on a? J'ai des amis que je connais c'était des gens, vous savez, qui aiment bien se battre. Alors, je parle intellectuellement, pas la bataille avec les mains, c'est rien ça. Je parle de bataille intellectuelle. Et on les a invités à un séminaire. Séminaire qu'on a fait pour du Torah, etc. Ils sont venus juste pour cogner. Il n'est pas venu pour apprendre la Torah. Il est venu parce qu'il y a des copains qui l'ont invité pour passer un bon temps. Il s'est dit, tiens, il y a un rabbin qui est là, on va envoyer. Punchline. Voilà, punchline, exactement. On va cogner. D'accord. Lève deal. D'accord. On va cogner. Eh bien, ils sont finis par revenir à la Torah.
Maintenant, c'est sous-marine.
Eh bien, il faut beaucoup de résistance du rabbin parce que, tu sais, un quelqu'un comme ça, qui est là, qui n'arrête pas de t'attaquer, tout ce que tu dis. Il faut beaucoup, beaucoup de patience pour être là et voir le bien qu'il y a en lui, qu'en vérité, il y a un juif derrière, qu'il faut être patient, que ça va sortir, etc. Il faut énormément de patience, parce que c'est les gens qui cognent. Hein. Ils cognent, ils en ratent pas une. Et s'il n'y en a pas une, bah, ils la créent, il n'y a pas de problème. Et oui, mais c'est pas grave, on te dit, tu continues à enseigner la Torah. Parce que mitor chez le lishma, va lishma, à force d'étudier, même si c'est pas chez le lishma, c'est pas pour Dieu, ça finira par être pour 4 jours. Moi, je crois qu'il y avait des questions, ou des interventions, je sais pas.
Ouais. Non, juste une remarque, plutôt, c'est pas une question, quoi. On va voir les deux. Quelqu'un qui a fait des avérotes et qui a fait aussi des misvotes par intérêt. On prend que les misvotes par intérêt. Est-ce que, y compris au moment de son dernier souffle, il peut faire, et récupérer tout ça?
Évidemment, bien sûr.
Non, c'est vrai.
C'est vrai?
Non, je suis sur les questions parce que j'ai entendu ça et je voulais savoir si c'était réellement concret.
Le problème.
Quelqu'un qui a une minute
avant. C'est écrit dans le Pirkei Avot. C'est le chapitre de la semaine prochaine. Ah bon? C'est écrit, reviens un jour avant ta mort. Le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est lequel.
Bah, c'est ça.
C'est la Gemara qui dit ça. Rabbi Akiva, il leur a dit, il faut revenir un jour avant sa mort.
C'est quand la mort?
Ses élèves, ils lui ont dit, mais c'est quand le jour de la mort? Ah, il dit, mais justement.
Reviens demain, on verra. Chaque tous les jours. Pour être sûr. Pas louper le rendez-vous.
D'accord. Il y avait d'autres choses?
Tout à l'heure, on avait fait une
vidéo. Oui.
Ils savent. Tu
sais pas? Il y avait une machine à
oui. Écoutez, Esav, c'est un profil très particulier. Non, Esav n'a pas fait Teshuva. Mais Esav, c'est pas Ishmael. Vous savez, il y a un midrash qui est très connu qui raconte que lorsque Esav a mis son droit de veto, il voulait pas qu'on enterre Yaakov dans le caveau des patriarches, parce qu'il a dit, pourquoi vous enterrez Yaakov? Moi aussi, je suis le fils de Yitzhak. D'accord. Alors en vérité, légalement, ça appartenait à Yaakov, puisque Esav avait vendu son droit d'aînesse. Donc il y a une seule place. Donc qui c'est qui prend cette place? C'est l'aîné. Seulement lui, tout d'un coup, il a commencé à dire non, mais vous comprenez, moi, c'était sous l'effet de la contrainte, donc j'ai pas vraiment, etc. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Esav avait signé un contrat à Yaakov dans lequel il déclarait qu'il léguait son droit d'aînesse, qu'il léguait à Yaakov. Mais ils avaient oublié le contrat en Égypte. Donc toute une histoire, comment ils ont dû envoyer Hushim ben Dan qui courait rapidement, etc. Toute une histoire. Naftalik, pour aller le chercher. Bon, je rentre pas dans les détails. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un petit-fils de Yaakov qui s'appelait Hushim ben Dan, et lui, il a vu ce qui s'est passé. Il a vu que il était malentendant, et il a vu que son grand-père, on n'enterrait pas son grand-père. Il était une pile égypte. Il voit son grand-père en avocat de patriarche. Il voit que il y a du trafic. Tu vois, il voit que ça avance pas, mais il voit qu'il y en a qui embête. Alors lui, il a pas compris. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on avance pas là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme il était maintenant, ils l'ont dit, c'est lui, il nous laisse pas avancer. Ni une ni deux, il a pris son épée, il a coupé la tête. Ah, ils savent. Il a tué. Et raconte la Gemara raconte que à ce moment-là, ce qui s'est passé, la tête de Esav
a roulé.
Elle est arrivée jusqu'au pied du caveau des patriotes. Non, c'est pas Hebron, il était déjà à Hebron. C'était juste à côté. Elle a roulé jusqu'à l'entrée du caveau des patriarches, à côté de l'endroit où était Yaakov. Et là, dès qu'il est arrivé à côté, il a ouvert les yeux et il a souri. Et, pas fini, le Midrash dit que la tête de Esav a été enterrée dans le caveau des patriarches.
Que la tête.
Ah, c'est quoi le pshat? L'arbitre dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire, le corps a été enterré dehors quelque part, je sais pas où, mais la tête, elle a été enterrée. En fait, si tu veux, c'est exactement ça l'image de Esav, parce que Esav est un juif, vous êtes d'accord avec moi? Esav, il est de père et de mère juive, donc il est juif. Et donc Esav, il a fait des fautes, il n'a pas fait de tchouva. Même s'il n'a pas fait de tchouva, sa tête, c'est le symbole de sa neshama, elle est restée parfaite. C'est pour ça que sa tête pouvait entrer dans le caveau des patriarches, donc elle est entrée. Mais son corps, qui représente son action, c'est-à-dire sa vie de tous les jours, ça, c'était pas bien. C'est pour ça que ça peut être enterré dans le caveau des patriarches. Le symbole est très fort. Ça veut dire que on veut te montrer qu'un juif, même s'il va le plus loin possible, on n'a pas plus loin que Esav, et ça, c'est plus loin. Et ça va rachat, c'est le rachat par excellence. Même s'il est aussi grave que Esav, sa tête, sa neshama, elle est toujours bien. Maintenant, il peut l'encrasser, il peut l'empêcher de s'exprimer, etc. Mais sa neshama est toujours bien. Sa tête, la tête d'un juif est toujours bien. C'est pour ça qu'on n'empêche jamais un juif d'étudier la Torah. Jamais. Il faut toujours l'encourager, parce que son fond est bon.
Même sans kippa avec une cigarette.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai déjà eu des gens qui venaient au cours sans kippa.
D'accord, ok.
Quoi?
Sans kippa, la cigarette.
Oui.
Il y en a plein qui viennent de là-bas.
Mais le pire, c'est pas ça. Le cas où vous dites, c'est un cas d'une personne qui est ignorant, qui est en train de revenir. Il y a des gens qui sont même pas ignorants. Il y a des gens, c'est provocateur. Il est méchant, c'est un rachat, un vrai.
Tu respectes le lieu.
Et ben même celui-là, tu l'enseignes à toi.
Il y a des règles. Demain, tu peux visiter une mosquée. Oui. C'est pas de la provocation.
Il y a étudié la Torah, tu enseignes la Torah. Après, t'as l'approche Shammai. Shammai, il le jette. Shammai, il le jette. Shammai, il dit, nous, on prend que les gens sérieux ici. Tu es sérieux, tu viens travailler. T'es pas sérieux, dégage. Shammai, il est comme ça, dégage. Les mots. Il discute pas. Mais maintenant, c'est pas notre approche aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'approche de Hillel. L'approche de Hillel, c'est, t'as fait le pas. T'es venu étudier, prends-le. Je lisais avant-hier, une réponse du rabbi. Rabbi, il a adressé une réponse au Shliach Chabad d'Angleterre, le Rav Soudak à la Vachalam. Il est décédé, ça fait 2 ans. Et une fois, il a eu comme ça une demande d'inscription à l'école juive. Et bon, je crois qu'il était déjà en sur effectif, etc. Donc, il a dit, je crois, dans 2 semaines, ils allaient avoir de nouveaux locaux, etc. Donc, il a dit, dans 2 semaines, vous pouvez revenir. Et le Rabbi, il a fait la réprimande, il lui a dit, prends-les pas prêts tout de suite. Attendez, je lui ai dit pourquoi. Il a dit, parce que qui te dit que dans 2 semaines, ils vont revenir? C'est un peu, vous allez me dire, c'est une approche commerciale, mais c'est la vérité. Qui te dit que dans une semaine, il va revenir? Et il a dit la chose suivante. Il a dit être serré, on peut toujours, bon, on peut s'arranger. Mais par contre, une âme perdue, ça a un impact pour des générations. Eh oui.
Non, mais c'est pas la même chose.
Ce même rave, il avait, c'est dans ses mémoires, ce même rave, à un moment, ils avaient un très très gros crédit pour l'école Chabad de Londres. Et à un moment, il ne suivait plus. Ouais, il ne suivait plus la banque, etc., la pression. C'est même pas qu'il fallait rembourser les crédits, c'est qu'il y avait tellement de charges, il n'arrivait plus à suivre. À un moment, il a voulu arrêter. Il a voulu arrêter une partie. Il a dit, bon, ça, cette construction, j'arrête. On va léguer cette partie du terrain, etc. On va la léguer, la vendre, etc. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Et déjà, on va essayer de maintenir ce qu'il y a. Mais c'était un vrai besoin, parce que l'école était en sureffectif. Alors, le rabbi lui a dit la chose suivante. Le rabbi lui a dit, un crédit, on peut toujours trouver une façon de le rembourser. Mais un enfant juif qui est perdu, il est perdu. C'est pas sûr que. Il a dit, il y a plus de chances de rembourser un crédit que de retrouver un enfant qui a été perdu. L'enfant qui a été perdu, tu sais pas s'il va revenir. Le crédit, il a perdu, bon, tu retrouveras. C'est bon. Mais ça, c'est une approche, attention, c'est une approche, il faut des épaules. Il faut des épaules, c'est dit pour ça. Voilà. Alors, Dylan Morazaken, maintenant.
Il y a quand même un danger dans cette affaire-là. Parce que celui qui vient faire de la provocation, on sait bien que dans l'histoire, quand même, les plus grands rachats ont été des convertis ou des gens qui ont étudié à l'Inquisition ou autre. On a des preuves. Même quand le Talmud a été brûlé en place de Grèce, c'est un
érudit.
Sous Saint-Louis, c'est un ancien. Voilà.
C'est un ancien érudit.
C'était un érudit.
Oui.
Donc, quelque part, quand on a. C'est quand même aussi un danger. Enfin. Il y a quand même à la fois on peut perdre, mais on peut finalement, on joue, enfin, quand on voit que.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un principe très simple. C'est que si j'ai une possibilité de faire passer un mot de Torah, de le faire administrer un mot de Torah, je le fais. Parce que la Torah, c'est comme un médicament. Alors, peu importe la salade que tu l'as vendue pour qu'il prenne ce médicament. Ce qu'il faut, c'est qu'il prenne le médicament. C'est tout. Raconte-lui ce que tu veux. Dis-lui que, moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un sirop que j'aimais bien tomber malade que pour goûter ce sirop. Ça s'appelait le Rinutan. Je sais pas si ça existe encore.
Hein?
Non, c'était un sirop orange. C'était très très bon. Non, c'était quand on était enrhumé. Je sais pas si ça existe. Parce que mes enfants, je sais pas, je l'ai pas vu. Rinutan, c'était un sirop. Ça m'a marqué ça. Un sirop, dès qu'on était enrhumé comme ça, tu vois. Un sirop à base d'orange, mais c'était très sucré comme ça, mais c'était très très bon. Il n'y avait pas d'équivalent dans le. Il n'y avait pas d'équivalent, c'est cachère. Il n'y avait pas d'équivalent dans ce qu'on mange normalement. D'accord? Eh bien, c'est pas grave. Eh ben voilà, pourquoi ils ont fait ça? Tu entends, Serge? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que dedans, il y a un excipient. Une molécule, qui était très difficile à avaler. Donc ils l'ont bourré de sucre, etc. Comme ça, le gosse, il est sûr qu'il a pris une boisson sucrée. C'est pas grave! Et alors? Au bout du compte, il a pris le médicament. C'est tout?
Même aujourd'hui, ils mettent des.
Monsieur, ok. Ça, il faut bien retenir ce que ça explique ici l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken dit la chose suivante. Rappelez-vous l'exemple qu'on a donné plusieurs fois pour expliquer qu'un juif au fond de lui, il est bon, et c'est pour ça qu'il faut faire tout ce qui est dans notre possible pour réveiller le côté bon d'un juif. Vous savez, on a amené plusieurs fois cet exemple, plusieurs fois, s'il vous plaît. On a amené plusieurs fois cet exemple. Que Rambam amène, Maïmonide amène, d'un juif, que le tribunal est arrivé à une conclusion qu'il doit divorcer de sa femme. Dieu préserve. Parce que, par exemple, il bat sa femme ou des choses comme ça, et le Bedin dit, monsieur, vous devez divorcer de votre femme.
On l'a obligé.
Exactement. Et le problème, c'est que le bonhomme ne veut pas divorcer. Et il y a un problème. Pourquoi? C'est que pour le, alors vous savez qu'en Israël c'est un délit ça, mais bon, maintenant c'est un délit, d'accord? Mais en tout cas le problème c'est quoi? C'est que la Torah nous exige l'accord explicite du mari pour le divorce. Et le mari, comme il sait qu'il a cette carte dans sa main, donc il dit je ne veux pas divorcer, d'accord? Je ne veux pas divorcer. Tu peux rien faire. Même si tu vas écrire un texte à sa place, ça vaut rien. Parce qu'il faut qu'il veuille divorcer. Qu'est-ce que dit Maïmonide? Maïmonide, il dit, on le frappe, ce monsieur, jusqu'à ce qu'il dise, je veux divorcer. Maintenant, Maïmonide pose la question. Maïmonide, bon, c'est sérieux quand même. D'accord? Maïmonide pose la question, il dit, mais attends.
C'est une pointure.
Évidemment, non, mais ça, bien sûr, il est carré, cartésien. Maïmonide te dit, mais attends. Tu sais très bien que le bonhomme, il veut pas. Il veut pas, le bonhomme. Pourquoi il t'a dit « je veux » En fait, ce qu'il veut te dire, c'est je veux que tu arrêtes de me frapper. Il t'a pas dit je veux divorcer. Alors comment tu peux dire que quand tu dis je veux, tu considères ça comme un accord, comme une envie de divorcer? Qu'est-ce que répond Rambam? Il dit parce qu'en vérité, ce juif est comme tous les juifs. Il a envie d'accomplir la volonté d'Hachem. Et dans la volonté d'Hachem, dans les 613 mitzvot, il y a une mitzvah qui dit tu dois écouter les sages. Et les sages lui ont dit tu dois divorcer. Donc au fond de lui, sa neshama, il veut accomplir la volonté des sages qui lui ont dit de divorcer. Parce que c'est une mitzvah d'écouter les sages. Seulement quoi? Il a son yitzhara qui le bloque. Il a son yitzhara qui ne le laisse pas écouter les sages. Alors nous, quand on frappe, qui c'est qu'on frappe? On frappe son yitzhara. Et quand on frappe, une fois que son yitzhara est affaibli, qui va parler maintenant? Qui va dire je veux? C'est lui. C'est Rambam, chapitre 3 de l'Hilchot Girushin. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est très fort ce qu'on apprend d'ici. Ça veut dire que c'est tellement fort cette idée qu'on utilise ça dans la halakha. On te dit que quand ce juif te dit je veux, même si on a toutes les raisons au monde de dire qu'il ne veut pas, comme on sait qu'au fond de lui il a envie d'accomplir la volonté d'Hachem, donc on te dit en vérité au fond de lui il veut accomplir la volonté d'Hachem, des fois il veut pas, alors il va te bousculer un petit peu. Ça veut dire ça, avec ça on va comprendre qu'en vérité un juif au fond de lui il a un fond, et peu importe le juif. On m'a parlé récemment qu'un juif qui est négationniste, etc. et tout, ça change pas. Alors, c'est vrai que ça peut être très grave ce qu'il a fait. Il y a des situations que la Torah oblige de mettre en quarantaine. Je rentre pas dans ce cas spécifique. Il y a des cas très graves. Mais c'est pas parce qu'il y a un cas qui t'oblige de mettre en quarantaine une personne que ça veut dire que ce juif n'a pas un bon fond. Ça n'existe pas sur Terre un juif qui n'a pas un bon fond. Tout juif au monde a un bon fond. Tout juif au monde a une neshama qui est au fond de lui. Et cette neshama, elle est pure. C'est tout, c'est comme ça. Et ce juif, chacun de nous au fond de lui veut accomplir la volonté. Donc c'est pour ça que je reviens à notre sujet, c'est pour ça. Lorsque tu as quelqu'un qui vient te voir pour te narguer, et viens on va étudier la Gemara, viens on va étudier la Torah, viens on va étudier etc. Mais tu sens qu'il n'est pas là, il n'est pas intéressé. On te dit c'est pas grave. Étudie quand même avec lui. Pourquoi? Parce que quand tu vas étudier avec lui, peut-être qu'avec ton étude, tu vas réussir à éveiller la neshama qui est en lui. Et si tu as réussi à éveiller la neshama qui est en lui, automatiquement, cet échama qui est en lui peut être une force très puissante comme une bombe atomique qui va éradiquer, qui va effacer tout le mal qui est autour de lui. On ne sait pas qu'est-ce qui va faire décoller. Au passage, ce que je peux vous dire, c'est que si on a le choix entre enseigner à quelqu'un, soit la partie dévoilée de la Torah, c'est-à-dire le Chumash, la Mishnah, quelqu'un qui est très 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 loin, je parle de gens qui sont très très loin, tu peux lui enseigner soit la partie dévoilée de la Torah comme le Chumash, la Mishnah, la Gemara, etc., ou soit tu veux directement passer à la partie profonde de la Torah comme le Tanya, le Zohar, c'est profond, etc., mais surtout par exemple le Tanya, la Chassidut, etc. On te dit passe directement au la profondeur de la Torah. Pourquoi? Parce que le Zohar dit la chose suivante. Le Zohar dit lorsqu'on étudie la partie dévoilée de la Torah, c'est pas sûr que la personne va décoller tout de suite. On sait pas quand il va décoller. Ça veut dire que s'il fait de la résistance, il peut. Et on a des exemples de gens qui ont étudié la Gemara toute leur vie, qui sont restés résistants. Ils n'ont pas laissé le message les imprégner. Mais celui qui a étudié la partie cachée de la Torah, c'est pas possible que ça va pas le toucher. C'est pas possible. Et moi, je peux vous dire, de courte expérience que j'ai dans les cours de Tanya, j'ai pas vu. Après, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on voit pas? Évidemment, ça c'est encore plus qu'on voit pas. J'ai pas vu une personne qui a assisté à un cours de Tanya qui n'a pas changé. Chacun a sa façon. Des gens qui viennent au cours de Gemara, on en a des cours le matin. Des gens qui viennent à des cours par curiosité ou pour plusieurs raisons, qui ne changent pas, ça on en a vu. Il y en a. Il y a des gens, bon, ils sont là. Tu vois que ça avance pas, tu sens que ça avance pas. Mais on n'a jamais vu une personne. Et moi je vous dis, au Hachem, ça fait quand même 10 ans qu'on est là. Et j'ai vu de mes yeux, on est passé par pas mal de monde. Après, chacun a son niveau. Il y a des gens qui avancent un peu plus vite, un peu moins vite. Des gens qui c'est plus profond, des gens c'est moins profond. Mais dès qu'on touche à la partie profonde de la Torah, on peut pas rester insensible. Vous rentrez en intraveineuse. C'est la Torah directement. Vous rentrez. C'est pas que vous administrez quelque chose que peut-être il va prendre, s'il a pas vomi, si c'est rentré, peut-être oui, peut-être non. Là, quand vous étudiez la chassidoute, vous rentrez direct en intraveineuse. Donc le malade, il peut pas rester impassible devant ça. C'est obligé qu'il va être secoué. C'est pour ça qu'on te dit la chose suivante. On te dit, il faut jamais refuser d'enseigner la Torah à quelqu'un. Jamais. Ce mot refus, il faut l'enlever de notre tête. Ça n'existe pas. Refus d'étudier la Torah, ça n'existe pas. On doit faire tout ce qui est dans notre possible pour intéresser. Avec des cadeaux, avec des bonbons, avec des carottes, avec ce que tu veux. Arrange-toi qu'il étudie, c'est tout. C'est ce que je peux vous conseiller aussi pour vos enfants. C'est la même chose. Ça veut dire, à un moment, des fois, tu vas dire, par exemple, l'enfant, il a des études de chol. Bon. Il a les mathématiques, il a les physiques, etc. Le français. C'est sûr qu'il n'a pas envie d'apprendre. Alors tu lui donnes des cadeaux, etc. Après un moment, tu dis, mais attends, combien de cadeaux on va lui donner ce bonhomme? Et il faut qu'il travaille un petit peu, il faut qu'il travaille pour travailler. Ça, c'est un calcul qui est légitime. C'est un calcul qui est légitime quand il s'agit de matières qui ne sont pas de Torah. Évidemment, à un moment, tu peux dire, écoute, ça suffit les cadeaux, il faut qu'ils se bougent un petit peu. Mais donc, quand il s'agit de Torah, il n'y a pas ce calcul. Toutes les méthodes sont bonnes. Toutes les méthodes sont bonnes pour faire rentrer de la Torah, pour faire administrer la Torah à quelqu'un. C'est ce que dit l'Admor HaZaken. Ouais. Vous voulez dire quelque chose, pardon?
La Torah, c'est le... Non, par contre. La Torah, c'est la nourriture de la
Torah. Ah oui. Mais il y a plusieurs types de nourriture. Vous savez, des fois, quand une personne est à l'hôpital, d'accord? Il y a deux façons de lui faire manger. Soit on lui donne à manger par la bouche, soit quand il est très malade et qu'on veut être sûr qu'il mange, comment on lui donne à manger? En intraveineuse. Prends-le de ne pas manger par la bouche. Des fois, il peut manger par la bouche. Prends-le de ne pas manger. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles on veut être sûr qu'il mange bien et que ça rentre. Et quand on est dans l'étude de la profondeur de la Torah, ça rentre direct. Je vais raconter l'histoire de la cravate. Vous vous rappelez l'histoire de la cravate? Une fois, il y a un rabbi qui est venu voir le rabbi. Une fois, il y a un rabbi qui est venu voir le rabbi. Il a dit, rabbi, j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait que chez vous les Chabad, donc directement, tu vois, directement, bon, voilà. Comment ça se fait que chez vous les Chabad, dès qu'on veut rapprocher quelqu'un de la Torah, d'accord? Dès qu'on veut rapprocher quelqu'un de la Torah, tout de suite Tania. C'est vrai, j'admets. Pour tout de suite Tania. Je dis, mais attendez, c'est pas normal. D'abord commencer à lui enseigner un peu le Chumash, d'abord la Lacha, le Shulchan Aruch, un petit peu. Et après, passer au Tania. Et le Rav, il a donné un exemple. Il a dit, Rabbi, c'est un peu comme si vous avez une personne qui est toute nue, il est tout nu, il n'a pas d'habit, et vous lui mettez directement la cravate. Ça marche pas comme ça. D'abord, on met les vêtements, après, on met la cravate. D'accord? Alors, Rabbi, il a répondu comme ça. Il a dit, je vais vous expliquer. C'est lorsqu'il va mettre la cravate qu'il va réaliser qu'il est tout nu.
C'est ça. C'est à cause de la cravate. Qu'il lui manque la chemise et la veste.
Parce qu'il n'a pas compris qu'il est tout nu.
S'il n'a que la cravate, il va pas.
Hein?
J'oublie tout le temps la fin de l'histoire.
La cravate. Bon.
Le Tania, c'est quoi? C'est la pensée juive?
Le Tania, c'est la profondeur de la Torah.
Mais la traduction littérale.
Tania, ça veut dire s'enseigner.
C'est enseignement.
C'est quoi? C'est la chassidoute?
Demande, David, il va te deviner. David,
c'est quoi?
David, demande, c'est quoi le Tania? Explique-lui.
C'est quoi le Tania, David? Qu'est-ce que ça veut dire?
Quoi le Tania?
Vas-y, David.
Si tu lis la page de garde, tu vas tout comprendre.
D'accord. J'ai lu la page de garde. Et j'ai lu même la page de couple. Mais
tu dois lire le.
Mais pour les quatre fois cette question.
Tania, ça veut dire s'enseigner. C'est le début, c'est le premier mot du Tania.
Enseignement,
oui. Non, le mot Tania, ça veut dire la force aussi. Mais ça n'a rien à voir, c'est le contenu qui nous intéresse.
Tania, c'est quoi?
C'est ce qu'on fait?
Oui, j'ai compris.
On essaie de comprendre les coulisses de notre Neshama.
Tu dois lire le début du
chapitre. Le pourquoi du comment. D'accord?
Tu ouvres la page de garde, tout, d'une
barre. Voilà. Dis l'Admor HaZaken, écoutez bien. Dis l'Admor HaZaken, on continue parce qu'il faut qu'on termine. D'accord? Chez Bevadai, page 204. Chez Bevadai, Sofo la Sotchouva. On lui dit, c'est pas grave, enseigne-lui la Torah. Même si c'est par intérêt, et même si c'est pour un intérêt négatif, c'est pas grave. Enseigne-lui la Torah. Parce que c'est sûr qu'il finira par faire teshuva. Il faut être sûr de soi pour dire ça. Il dit c'est sûr qu'il fera teshuva. C'est pas, il y a de fortes probabilités que. Qui est sûr? Il dit c'est sûr qu'il fera teshuva. Begil Goulze, ou Begil Goulacher. Dans cette incarnation ou dans une incarnation suivante. Ça veut dire qu'un juif qui a étudié la Torah, c'est sûr qu'il finira par faire teshuva. C'est sûr. La question c'est quand? C'est pas est-ce que, c'est quand? Est-ce que ça va être maintenant? Est-ce que ça va être dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que ça va être dans une incarnation suivante? Est-ce que ça va être son fils? Mais c'est sûr qu'il fera tes choix. Ça veut dire que quand tu investis dans quelqu'un, ça veut dire, hein, bien sûr, c'est sûr. Une personne qui étudie la Torah, c'est sûr qu'il fera tes choix. C'est pas peut-être. Et je veux dire, c'est quand même prétentieux de dire ça. C'est sûr qu'il fera tes choix. Vous savez, quand tu t'investis...
C'est ambitieux.
C'est même prétentieux. D'accord? Parce que quand tu t'investis dans une affaire, par exemple, quand tu vas investir de l'argent dans une affaire, même si on te dit cette affaire, c'est vraiment sûr, t'inquiète pas, tu peux y aller et tout, toujours un peu de doute. Peut-être que ça marchera pas. N'existe pas. Exactement, il y a toujours du doute. Et en général, les affaires où on gagne beaucoup de sous, c'est qu'il y a beaucoup de doutes. Parce qu'il n'y a pas de secret. Ça n'existe pas une affaire où on gagne beaucoup d'argent sans beaucoup de doutes. On est d'accord? Plus c'est gros, le bonhomme il a acheté un immeuble, il a acheté un terrain, il compte construire parce qu'il va faire ci, il va faire ci, il va faire ça. C'est beaucoup beaucoup de risques. Et plus il y a de risques et plus il y a d'argent récupéré. C'est comme ça que ça fonctionne. Seulement c'est des risques. Là, on te dit, quand tu es un sénateur injuste, c'est pas un risque que tu prends. C'est pas un coup de poker que tu dis, bon, écoute, on va essayer, on n'a rien à perdre. C'est pas un coup de poker. C'est une mise que tu as déjà gagnée. Seulement, tu sais pas quand ça va décoller. C'est-à-dire que t'as misé quelque chose, mais tu sais pas quand ça va décoller. Tu sais pas quand ça va prendre. Est-ce que ça va prendre maintenant ou demain ou après-demain? Quand même, vous savez, des fois, il y a des gens qui me sont arrivés avec ça. J'ai une courte expérience. Par exemple, des gens, des fois, on balance beaucoup d'idées dans un cours. Je dis bien balancer parce qu'il y a plein d'idées et on sait pas ce que chacun retient. Des fois, je fais des essais après le cours, je dis qu'est-ce que t'as retenu du cours et chacun a retenu une autre idée. C'est normal. Et des fois, t'as une personne qui vient te voir des fois des mois après et te dit, vous vous rappelez, monsieur le rabbin, une fois vous avez fait un cours, vous avez parlé de ça. Il sort un petit détail que t'as dit, mais tu l'as dit comme ça, mais tu vois, mais vraiment, pour moi, c'était un détail anodin dans le cours. Des fois, je me rappelle même pas avoir dit ça. Et t'es un peu gêné parce qu'il te sort un truc que t'as dit, tu te rappelles pas l'avoir dit. Alors tu dis gentiment, tu dis mais non, mais je me rappelle pas avoir dit ça. Il dit non, c'est ici que je l'ai entendu de vous. Il te sort la date surtout, etc. Il dit, vous savez, ça m'a changé ma vie. T'as rien dit, toi. T'as rien fait, t'es un pion.
Non, tu crois que tu as
bien mot.
T'as rien fait. Ça veut dire qu'à la limite, c'est même pas le mot. C'est-à-dire quand tu prépares un cours, t'as une idée maîtresse dans le cours, tu construis autour de quelque chose. Il a même pas retenu l'idée maîtresse, il a pris l'idée qu'il devait retenir et c'est ça ce qui a changé sa vie. Pourquoi? Parce que dans la piqûre que tu lui as donnée, il y a eu cette partie qui a attrapé. Et une fois que ça a attrapé, une fois qu'un mot de Torah a attrapé quelqu'un, ça ne lâche plus. C'est à l'intérieur, c'est fini, ça lâche plus.
Il y a des bonnes cerveaux.
Ça lâche plus, c'est fini. Un mot de Torah qui rentre dans une personne, ça lâche plus. Ça lâche plus. Une fois qu'il est à l'intérieur, après vous laissez le mot de Torah faire le boulot. Comment il dit le roi Salomon? Le roi Salomon, il illustre ça en une phrase. Il dit, envoie ton pain sur l'eau. C'est une expression pour dire, tu envoies, et après tu laisses le boulot se faire à l'intérieur. Tu envoies juste ta goutte de Torah une fois qu'elle est rentrée. C'est sûr qu'il fera tes choses.
Inconscient qui fait le boulot.
Et Dilad Morazaken, il continue. Il dit la chose suivante. Kilo yidar mimenu nidar. Car, au final, dans notre exil, personne ne sera repoussé. Vous savez, lorsque l'on est sorti d'Égypte, pas tout le monde est sorti. Quand on est sorti d'Égypte, Dieu nous a donné le choix. Il a dit, ceux qui veulent sortir, peuvent sortir. Ceux qui veulent rester, peuvent rester. Il y a eu 80% qui ont préféré rester. Et ils sont restés. On les a pas obligés à sortir. D'accord? Ils sont morts. Mais c'est leur choix. On leur a donné le choix. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète nous dit très clairement, d'accord, que ça s'appliquait seulement une seule fois pour la sortie d'Égypte. Que la sortie d'Égypte, Dieu l'a dit, je donne le choix. Il faut vouloir sortir, c'est la base, c'est le minimum. Tu veux pas sortir, tu sortiras pas. Mais, concernant la venue de Mashiach, il est écrit clairement, Kilo yidar menu nidar. Ne sera déchu aucun déchu. Ça veut dire que même celui qui est déjà déchu, le bonhomme, il est parti, tu comprends, il est parti à Timbuktu, il est parti là-bas, il a dit, voilà, je vais être sûr qu'il n'y a aucun bête rabat qui ouvrira là-bas, dans un endroit dans lequel il n'y a personne qui viendra me chercher. Tu comprends? C'est-à-dire que le bonhomme, il est parti dans un endroit dans lequel il n'y a personne. Je veux qu'on me laisse tranquille. Alors, un bonhomme comme ça, t'as envie de dire, attends, c'est même pas qu'il veut pas sortir, il veut rester. Il fait des pieds et des mains pour rester. C'est même pas qu'il veut pas sortir, il veut rester. Il fait Messie Route Nefesh pour rester. Et bien même quelqu'un comme ça, lorsque ma chère viendra, Kilo Yidar Melunidar ne sera déchu aucun déchu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il finira par revenir. Et Maïmonide est très clair. Maïmonide, il a des mots très clairs. Il dit la chose suivante, il dit que à la fin de l'exil, sauf Galoutan, à la fin de l'exil, tous les Bnei Israël y feront Teshuva. Et que Dieu n'enverra pas, ne finalisera pas la Geoula, tant qu'il n'a pas récupéré Achad et Achad un par un, et tant qu'il ne reste pas, ne serait-ce qu'une seule personne qui n'est pas revenue.
Ça rassurera pas le même
hein
régime.
Hein? Non, mais attendez, on ne sait pas les moyens qu'il va utiliser. Vous savez, avec la volonté, regardez l'autre. Il a commencé un parti, ça fait un an, regardez ce qu'il a fait, il est monté. Ça veut dire qu'on. Il y a des situations. L'Avdil, hein, c'est pas Machiar. Non, mais ça veut dire, ce que je veux montrer, c'est que c'est quand même intéressant. Ça veut dire que t'as un bonhomme qui est là, qui appartient à aucun parti. Il appartient à aucun parti. Il a fait son propre parti. Il y a plein d'autres qui ont fait leur parti. Ils ont eu 0, ils ont eu 0,1, et le plus, il a eu 4%. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est président. Ça n'existe pas.
Hein?
Et en plus, les autres, ça fait déjà plusieurs tours qu'ils le font. Lui, il est venu son premier tour.
Il n'a pas marché les autres.
Son premier tour, il est venu, pack direct. Il avait un ratson, il avait une volonté. Il avait une volonté. Ça, c'est indéniable. Indéniable.
Ce que tu dis est extrêmement juste parce qu'il l'a dit.
Et exactement, oui, il l'a dit en plus, il a dit rien ne peut tenir. Qu'est-ce qu'il a dit devant
la volonté, tu l'as vu? L'envie.
C'est la volonté, c'est tout. Alors c'est la même chose. Machiach, vous inquiétez pas, il vous ramènera un par un. Donc.
Donc on ne sera pas laissé pour compte, ça veut dire ça.
Mais bien sûr que non.
Ce sera le même cas que l'Égypte. Il n'y aura pas les
4%. Il n'y aura pas, non, pas du tout. 100% gagnant. Pas du tout. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que vous croyez? C'est une des raisons pour lesquelles le rabbi, il a envoyé, il a construit des betteravas partout dans le monde. Parce que le rabbi, il a dit, il faut commencer à paver le travail du Mashiach. Mashiach, il va ramener un par un. Alors, pour préparer sa venue, pour accélérer sa venue. Exactement. Petit à petit, on l'amène, petit à petit. Parce que partout, il faut qu'il revienne partout. Ça prend le temps que ça prend. C'est un travail. Mais il faut y arriver. Et tant qu'il y a même un juif qui n'est pas revenu, c'est un échec. C'est un échec complet. C'est pas 99,9. On n'est pas dans les élections, là.
On peut le taper avec un bâton pour le faire revenir plus vite.
Non, un bâton d'amour.
Mandy.
Excusez-moi, je vais juste terminer parce que c'est déjà l'heure. D'accord? Alors, juste terminer encore quelques lignes. Ar cependant. Kesheose, stam lolishma, velo shel lolishma, en adavar taloui bitshuva, ela miyat shechozer, velo met davar zelishma. Dis la demoiselle, tu sais dans quel cas on t'a dit qu'il faut faire teshuva et que tant que tu fais pas teshuva, l'étude reste bloquée en bas. Ça, c'est uniquement dans le cas dans lequel la personne a fait vraiment par un intérêt négatif. Il a étudié pour un intérêt pas bien. Mais si c'est un cas comme le cas qu'a dit Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un cas classique. Bon, il a étudié, c'était ni pour un intérêt négatif ni positif, c'est ni, d'accord, c'est voilà, c'est ni, neutre. Il a étudié la Torah, il est venu, bon, il était là. Là, on dit celui-là, il n'a même pas besoin de faire des choses. Alors qu'est-ce qu'il faut?
Pourquoi?
Pour que son étude décolle. Il n'a même pas besoin de faire des choses. Alors qu'est-ce qu'il faut? Celui-là, ce qui lui suffit, c'est une chose très simple. C'est que la prochaine fois qu'il réétudie le même texte et qu'il le fait avec une bonne intention, sans dire je fais teshuva, sûr, s'il repasse sur ce même texte une autre fois en ayant un peu plus attention, et ben toute cette étude monte, cette étude et l'étude précédente, les deux montent. Mitraber ou mitstaref, limudze ou fachaleela. Et là, écoutez bien ce qu'il a de Morazaken. Mais achar, shelo mitlavejosh, adain shukli padenoga, velachel amrou razar botenu, zichonan livracha. C'est pour ça que les chachamim ont dit, leolam yasok adam, qu'un homme doit toujours se préoccuper dans l'étude de la Torah, même si c'est par intérêt, parce qu'il finira par y arriver pour le vrai intérêt. Et je vais terminer avec une très très belle idée. V'chen a'inyan bitfila shelo bekavana. Alors c'est cinq mots, on aurait pu faire un cours que sur ça. Il dit, il en est de même pour une prière sans kavana. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un, voilà, il sent que tous les jours il fait sa prière sans kavana. Il n'est pas dedans. Voilà, il dit, bon, je viens, d'accord, je fais, mais je ne suis pas dedans. Alors attention. Il y a celui qui fait sa prière, ça, je ne sais pas si ça existe, avec une kavana négative. Ça veut dire, par exemple, il n'a pas envie de prier, mais il a envie qu'on croit qu'il prie, donc il va prier. Ça, c'est un tordu, celui-là. Mais bon, ça, je ne sais pas s'il y en a déjà. C'est vraiment pas. Non, il va prier, mamache. Mais il va prier pour un intérêt négatif. Bon, ça, c'est exactement, c'est l'intelligence de la maîtrise. Mais c'est pas de ça que je parle. Là, je parle d'un cas plus simple. Un cas comme nous. Voilà, il n'y a ni intérêt négatif, ni intérêt positif. Il n'y a pas l'intérêt de cours, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas, c'est le cas de le dire, il n'y a pas d'intérêt. Alors, la Morazaka te dit la chose suivante. Il te dit, lorsque tu fais une fila, si tu l'as fait sans kavana, cette fila reste bloquée en bas. Si tu l'as fait sans intention, il n'y a pas de secret. La fila, pour qu'elle monte, il faut qu'elle ait la kavana. T'as pas de kavana, la fila reste bloquée en bas. Cependant, dit la Morazaka, et c'est, il ramène ça du Zohar. Il dit, il suffit. Qu'une personne, cette personne qui n'a pas eu de kavana, fasse une bonne fila par la suite, étant donné que toutes les filas se ressemblent, cette fila fait tout décoller. Ouais. Alors attention, c'est pas une façon de dire maintenant, bon, bah écoute, voilà, c'est bon, on a carte blanche pour toute l'année, on va faire les malins, et après, Kippour, on va arriver, on va faire une bonne fila. Non, ça marche pas comme ça. Donc, je suis pas en train de dire ça. Mais ce que je veux dire par là, alors, en fait, c'est plus spécifique. Je donne un exemple. Imaginez par exemple que j'ai fait ce matin toute ma fila sans kavana. Et ça fait des mois que je fais ma fila sans kavana. Et que demain, je vais avoir une kavana spéciale sur le schéma. Schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tous les schémas Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad que j'ai fait depuis ma naissance vont monter en même temps. Imaginez qu'après demain, je vais faire, par exemple, je vais avoir une kavana spéciale sur la prière Réphaïm. La prière de la Réfoua. Toutes les prières Réphaïm que j'ai fait depuis ma naissance et qui n'avaient pas de kavana vont décoller en même temps. Parce que, encore une fois, dans quel cas il faut faire teshuva pour que ça décolle? C'est si j'ai fait ce que j'ai fait avec une kavana négative. Là, on te dit, il faut faire teshuva et c'est là que ça va décoller. Mais si c'est comme nous, il n'y a pas eu de kavana négative. Il n'y a simplement pas eu de kavana. Dès lors que je fais une fila avec une vraie kavana, eh ben, tous les éléments sur lesquels j'ai eu la kavana, tous les éléments, par exemple, t'as fait Baruch Shaman Kavana, ben, tous les Baruch Shaman Pitane Naissance, ils montent. T'as fait Ishtabar Kavana, tout monte. C'est pour ça que tout est à prendre. C'est-à-dire que demain, ce soir, dans votre fila, même s'ils avaient réussi à avoir la kavana, même sur une bracha, c'est bon. Parce que, en ayant la kavana sur cette bracha, toutes les brachot depuis le dernier crédit, la dernière fois vous avez eu la kavana, peut-être c'est Kippour ou je sais pas quand, d'accord? Toutes les dernières brachot que vous avez fait sans kavana depuis la dernière fois, elles vont toutes décoller en même temps. C'est pour ça que tout est bon à prendre. Il faut continuer, il faut persévérer. Amen. Et encore une fois, on va réussir, mais il faut jamais s'arrêter. Amen. Jamais s'arrêter, parce que en prétextant que je ne suis pas dedans, je sens pas que ça n'existe pas. Il faut toujours avancer, toujours persévérer. Et avec le temps, non seulement que tu vas réussir, mais quand tu vas réussir, tu vas emporter avec toi ce qui va avancer. Ça c'est le chidouche. Ça c'est le top. Ça. Qu'est-ce que de mieux?
Lundi. Juste de remarques. Là, quand t'as parlé de faire la tefila avec kavana, ce qui veut dire qu'on a trois possibilités. Le matin, tu l'as pas faite avec kavana pour X raisons.
D'accord.
Par contre, celle de l'après-midi non plus. Et en revanche, celle du soir, va savoir pourquoi tu l'as fait avec kavana.
C'est la même amida.
Alors, ce qui veut dire que celle que t'as faite le matin, l'après-midi, tu les as récupérées avec celle du soir.
Oui, on les a fait monter, oui.
D'accord.
La amida. Pas le reste.
Que l'amida.
Le soir, j'ai pas de Ishtabar, j'ai pas de Baruch Shamar.
T'as le schéma.
Le schéma, le
soir,
très bien.
D'accord.
Le schéma alors, du soir, récupère le schéma du matin.
Maintenant, quand tu fais ta prière avec Kavana, tu peux ne pas faire l'intégralité de la tefila, mais qu'une partie. Et chaque jour, tu peux faire une partie.
Non, ça, non. Non, non, ben non, justement, c'est ben exactement. C'est ça. Non, c'est le contraire ce qu'on a dit.
Parce que là,
on vient de dire le contraire.
Tu fais rien que le schéma.
Non,
avec Kavana,
non, pas du tout, je vous arrête. On vient de dire le contraire. On dit pas du tout, on dit fais tout. Seulement, si tu sens que t'arrives pas, sur une partie de la tefila, tu vas essayer d'avoir la kavana. Mais fais tout. Faut tout faire.
Non, tu fais toute la tefila, on est d'accord.
Tu fais toute la tefila, et tu peux dire, bon, je vais commencer par avoir la kavana sur telle partie. Voilà, pas de problème, ça tu peux.
Donc, mais alors chaque jour,
mais il faut tout faire, on s'arrête pas de faire.
D'accord.
On s'arrête pas.